Il est 20h, passé d'une poignée de secondes sur Radio Campus Paris, et le lobby c'est maintenant.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils sont
dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay rights now. Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Lobby, une heure de radio en direct par et pour les personnes queer et celles qui se cherchent encore. On est ensemble jusqu'à 21h avec, comme chaque mois, un casting 5 étoiles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est d'abord Mayel qui est avec nous. Salut Mayel.
Salut.
Ça va? Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Écoute, je suis ravie d'être revenue parmi vous.
Bah oui, moi aussi. Une chroniqueuse qui fait aussi son grand retour dans Le Lobby, c'est Delila, qui est aussi derrière la console à la réalisation ce soir. Salut Delila. Polyvalente, comme toujours.
J'essaye.
De quoi vas-tu nous parler en toute fin d'émission?
Je vais vous parler de personnes transphobes car j'adore les chroniques positives.
Et tu ne donnes pas de nom pour l'instant, trigger warning. Très bien. Ce sera en tout cas en fin d'émission et puis une nouvelle voix pour sa toute première chronique dans Le Lobby. Salut Sony.
Coucou.
Sois la bienvenue.
Merci.
Ça fait hyper plaisir de t'accueillir. De quoi tu vas nous parler tout à l'heure?
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur de mon adolescence.
Waouh. Ok. Et on n'en dit pas plus. Non. À tout à l'heure. Que serait Le Lobby sans ses invités? Et ce soir, Mayel, ils sont deux.
Et oui, en deuxième partie, on sera rejoint par Amar Lefebvre. C'est le président et fondateur de l'association Joigny et fier de sa diversité. C'est lui qui organise la marche des fiertés dans cette commune d'à peine 10 000 habitants située dans l'Yonne, à moins de 2 heures de Paris. La quatrième édition aura lieu le 20 juin prochain, avant goût à partir de 20h40.
Mais avant, un autre parcours militant, un autre événement qui va marquer le mois des fiertés, c'est le Fier Gala. Il aura lieu le 12 juin au Théâtre de l'Opéra Comique. Au programme, une soirée de concerts et de fêtes et surtout un événement caritatif au profit de 3 associations LGBT+. Le président et fondateur du Fier Gala, Maximilien Marseille-Husson, est notre invité.
Le lobby Radio Campus Paris.
Bonsoir Maximilien.
Bonsoir, quel accueil.
Voilà, arrivé en fanfare. Bienvenue dans le lobby, on est ravis de te recevoir. Le Fier Gala, c'est donc le 12 juin à l'Opéra Comique. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la genèse un peu de cet événement? Qui date d'il y a quelques années en plus, je crois déjà. Ça fait longtemps que tu l'as en tête.
Absolument. En fait, le projet a émergé dans mon esprit après les législatives de 2024, avec un entre-deux-tours où je pense que assez mémorable.
Oui.
On a
retenu un peu notre respiration.
Un petit peu, ouais. Ça a été une semaine en apnée profonde. Et suite au deuxième tour, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un engagement citoyen plus fort. Que je ne pouvais plus constater l'état du monde, être un simple spectateur, et donc j'ai voulu agir. Et donc j'ai joint l'utile à l'agréable et j'ai imaginé cette grande fête qui va avoir lieu dans bientôt 2 semaines.
Ouais. Quand tu dis un engagement citoyen plus fort, d'ailleurs, ça veut dire que tu étais investi dans d'autres mouvements auparavant? Enfin, il y a eu un déclic comme ça qui t'a dit « il faut que je me... »
Je peux pas dire que je suis un citoyen sensible, ouais. Mais j'appartenais pas à une association, ouais. J'avais pas d'engagement de ce côté-là. J'avais un engagement notamment dans les écoles, les collèges et lycées où je donnais des cours de théâtre, donc à côté de du reste de ma vie professionnelle, mais ça n'allait pas plus loin. Mmh. Et donc voilà, c'était important pour moi de contribuer à l'effort citoyen.
Et alors, du moment où tu as eu l'idée jusqu'à sa réalisation, bientôt finalement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Quelles étapes ont été importantes?
Vous avez 5 heures devant vous ou pas? Je vais essayer de faire court. Oui, bien sûr, des obstacles, évidemment, il y en a eu. On va commencer par les obstacles, c'est une bonne chose. On est dans une période politique, économique et sociale très fragile. Très fragilisé par des gouvernements qui se durcissent. Et j'ai imaginé le Fier Gala en 2024, puis Trump a été réélu à nouveau aux États-Unis. Et la première chose qu'il a fait, c'était quand même de supprimer toutes les aides pour les associations LGBT. Donc c'est un message très puissant de la part de la première démocratie du monde. Et déjà à ce moment-là, de la part de mes partenaires, j'ai senti qu'il y avait d'abord quelque chose de très chaleureux quand je leur parlais du Fier Gala, et puis après une petite limite, ce que je comprenais parfaitement, parce qu'avec la politique tarifaire, etc., qui était mise en place, ça compromettait beaucoup de choses. Les budgets diversité et inclusion aussi, qui étaient vraiment coupés très rapidement. Donc pour les obstacles, je parlerais plutôt de ça. En revanche, le Fier Gala, pour moi, c'est la plus belle aventure humaine que j'ai pu vivre, parce que je suis présent ce soir, mais en fait, maintenant, on est presque plus de 50 à travailler sur le gala, beaucoup, énormément de bénévoles, de domaines extrêmement différents. Et en fait, dès que je parlais du gala, tout le monde avait envie de s'engager. Tout le monde, la première chose qu'on disait, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et donc ça, j'avoue que c'était assez beau. Et voir aujourd'hui qu'on est cette énorme équipe, que le public est au rendez-vous, que les artistes aussi ont répondu à l'appel, c'est assez émouvant, et je crois qu'on a besoin de signaux forts comme ça dans l'époque qu'on traverse. Et donc voilà, ça c'est une belle réussite.
Et justement, pourquoi ce choix de faire une célébration comme ça, un grand gala, dans une époque où justement on a des fois envie d'être en colère plus que de faire la fête?
Parce que je pense que la fête et le militantisme joyeux sont de très grandes armes. La fête, j'ai mon cœur un peu dans l'histoire, et en fait c'est pas pour rien que Louis XIV a créé la Galerie des Glaces, c'est pas pour rien, même Trump, c'est pas les bons exemples, mais en fait on refait une énorme salle de bal complètement démesurée, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on retient, c'est que la fête, c'est le premier vecteur de diplomatie, et que beaucoup de messages peuvent passer à travers la fête, là où dans d'autres endroits de la vie ne passerait pas forcément. Donc je comprends cette colère, et je suis également très en colère sur de nombreux sujets. Mais je pense qu'on a besoin justement de s'arrêter un moment, de dire « Attendez les gars, est-ce qu'on peut faire la fête tous ensemble? Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on peut honorer la communauté LGBT aussi ?» C'est très important pour moi. Et c'est un gala, c'est un événement prestigieux, et j'ai pas peur de le dire, qui... pour moi, illustre la majesté, la beauté du regard que je porte à la communauté.
On va revenir sur ce côté un peu prestigieux, un peu pailleté. Il faut préciser avant tout que c'est une soirée caritative. Les bénéfices vont être versés à des associations dont on va donner les noms. Le Refuge, qui est très connu. L'Autre Cercle, donc, qui est plus une association qui vise à l'inclusion des personnes queer dans le milieu du travail.
Oui, et des universités aussi, de l'enseignement supérieur. C'est important
de préciser aussi, effectivement. Et l'association Les Audacieux et Les Audacieuses, donc là, qui sont plus pour le dire publiquement, nos aînés, c'est ça?
Exactement, tout à fait.
Comment est-ce qu'il s'est fait ce choix? J'ai l'impression qu'entre le Refuge, les Audacieux et les Audacieuses, et puis l'Autre Cercle, il y a quelque chose aussi de vouloir s'adresser à toutes les générations, un côté intergénérationnel. C'était ça un petit peu la DA, si je puis dire.
C'est complètement la DA. En fait, moi, j'avais à l'esprit de faire un événement intergénérationnel, accessible au plus grand nombre, même si c'est une première édition et que c'est un objectif très ambitieux. En tout cas, le choix de ces trois associations, en effet, a été fait pour que l'intergénérationnalité soit au cœur du gala, et que vraiment tout le monde se dise que c'est le cycle de vie d'une personne LGBT qui est représentée à travers ces trois associations. Alors évidemment, des bénéfices reversés, c'est une chose, mais c'est aussi la visibilisation de ces trois associations, parce que, alors nous on connaît, hein, parce que c'est dans notre univers, dans notre quotidien. Je crois que plus largement, les Françaises et les Français ne connaissent pas forcément ces associations, et puis on entend souvent aussi dire oui, mais aujourd'hui en 2026, c'est bon, on peut être ce qu'on veut, il n'y a plus de problème, etc. Non. Non, la réponse est non. Peut-être éventuellement dans certains milieux, et encore, mais non, les problèmes ils sont là, ils sont partout, ils sont dans toutes les sphères. Et aussi dans les partenaires qui nous soutiennent, on a aussi des compagnies vraiment de milieux très différents, et ça aussi c'est important de dire, en fait c'est pas juste luxe, mode, beauté, il y a ça, mais vraiment pas que, en fait.
Et puis c'est une soirée au thème aussi, et on parlera de la programmation peut-être avec Maëlle juste après. Le thème, c'est la vie en rose, comme la chanson d'Edith Piaf. Pourquoi? Et est-ce que ça veut dire qu'il faut venir habiller aussi? Il y a une question un petit peu de mode aussi sur laquelle on reviendra après.
Alors, tant de choses à dire sur ce thème. Bien sûr, la vie en rose, parce que aussi Paris, ville de la fête, faut pas l'oublier. On a eu aussi récemment, on a accueilli les Jeux Olympiques avec une énorme fête nationale. Je crois que parisien, on est vraiment dans ce sentiment-là. Donc, une fête à Paris, c'est une évidence. La vie en rose, c'est une évidence. C'est aussi une expression dont on peut qu'on peut interpréter à sa manière. Donc j'en dirai pas plus.
Très bien.
Y a la couleur, certes, mais il y a tellement d'autres choses derrière la vie en rose. Et ça m'amène évidemment au thème, parce que c'est un dress code. Donc, si vous voulez venir tout de rose vêtu, vous nous en avez tout à fait le droit. Si vous voulez interpréter le thème, vous avez complètement le droit. Et puis voilà.
Très bien. Nayel ?
Oui, justement, je voulais revenir sur la programmation des artistes. Comme tu disais, donc ce côté un peu intergénérationnel avec les associations, parler un peu à tout le monde. Est-ce qu'il y avait aussi ce choix-là dans la programmation d'aller chercher à la fois des grands noms, des gens un peu plus niches, etc. ?
Complètement. Avant de répondre directement à ta question, je voudrais ajouter que ce gars-là, il met en avant deux grands milieux chers à la communauté LGBT, qui sont la mode et la musique. Mmh. Et donc, pour honorer ces deux aspects-là, on a une marraine qui est Raya Martini, qui incarne la partie mode du gala. Mmh.
Qui est mannequin.
Une grande automodèle qui est aussi actrice, puisqu'elle revient de Cannes avec deux films en sélection. Membre du jury de la Queer Palm également. Donc, Raya pour la partie mode et Woodkid pour la partie musique. Et donc ensemble, on a imaginé cette soirée, bien sûr. Et pour l'aspect musical, où il y a vraiment, on a un corpus d'artistes, hein, puisqu'on est plus de 15 artistes. Enfin, ils seront plus de 15 artistes sur scène. Avec Woodkid, l'idée c'était d'abord de ramener les copines et les copains, et puis évidemment à l'image des associations, d'avoir une représentativité aussi bien de genre et d'identité, mais aussi d'univers musicaux. Et de dire, c'est pas que les grandes célébrités. Alors, on a des grands noms, on a des artistes aussi plus indépendants.
Citons peut-être les grands noms, hein, Edith Preto, Bilal Hassani, Marguerite aussi, l'ex-candidate de la Star Academy.
Absolument.
Et puis les candidats effectivement peut-être un peu plus discrets et qu'on aime beaucoup pour les avoir aussi reçus dans cette émission. Thanks for Crying, Mélissa Lavo qui est peut-être dans un entre-deux.
Dans un entre-deux, bien sûr.
Indie aussi.
Tout à fait. Et puis Luna, que j'ai découvert à la soirée des Tétus Awards l'année dernière, qui m'a mis par terre, littéralement, et en sortant de la cérémonie, je suis en train de faire un énorme gala LGBT.
Tu te vois venir.
Tu seras là. En fait, je ferai en sorte que tu sois là, et elle est là, donc c'est assez merveilleux. Et là aussi, ça va être assez unique comme soirée, c'est que ça va pas être un tour de chant où chacun à son tour prend le micro et chante sa chanson. On a vraiment imaginé avec le directeur musical, qui est Charlie Trimbure, on a imaginé des duos, des trios, je sais pas, même si l'élève me brûle, mais je ne révélerai rien. Duo et trio, donc inédit.
On en voit bientôt la musique, peut-être qu'on pourra en parler hors antenne.
Donc des duos et des trios que vous n'aurez jamais entendus. Et en plus de ça, accompagné du Rainbow Symphony Orchestra, qui est un orchestre LGBT amateur et qui accompagne les deux tiers des œuvres avec un quatuor à cordes de 24 musiciennes et musiciens.
Rainbow Symphonic Orchestra, fondé en 1996, grand orchestre. On a hâte de voir ça, en tout cas, sur scène. Parmi les artistes qu'on va voir sur scène aussi, et une artiste qu'on a reçue aussi ici, il y a Janice. Tu nous racontes un peu comment tu l'as découverte et qui c'est ? Tu nous la présentes en quelques mots ?
Vous avez deux jours ?
Ah non, on a une minute. Et puis on va écouter son dernier titre après.
Alors, Janice, moi, c'est une amie de très longue date, puisque on s'est rencontrés en 2008.
Voilà. À l'époque, donc, de son ancien projet musical, Slimmy.
Exactement, Slimmy, et qui n'était pas encore Slimmy à l'époque.
Oh là là.
Janice, je l'ai rencontré en train de faire de la guitare un samedi soir sur le parvis de Beaubourg.
Ok. Wow.
Et c'était trop chouette. Et donc, du coup, j'étais avec ma sœur et mes deux très bons amis. Et on s'est posé avec lui à l'époque, puisque c'était avant sa transition. Et depuis, on ne s'est jamais quitté.
Et ben voilà, Janice, dans son dernier titre, Dolls, qui fait revenir d'ailleurs Slimmy un petit peu.
Yes,
on écoute ça maintenant sur Radio Campus Paris.
Tell me, world's ready to share all of your indoors from wishes to cons.
C'était le dernier titre de Janice à l'instant sur Radio Campus Paris.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah. Et on est toujours en compagnie de Maximilien Marseille-Husson, président et fondateur du Fier Gala. Ce sera le 12 juin à 20h au Théâtre de l'Opéra Comique à Paris. Maëlle.
Écoute, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours pro aussi, qui est super intéressant. Tu as travaillé pour des grandes structures culturelles, l'Orchestre de Paris, la Philharmonie, Fondation Louis Vuitton, etc. Comment tes expériences dans ces grandes structures, ça a un peu nourri ce projet de Fier Gala ?
En fait, j'ai un parcours assez hétérogène, parce que j'ai aussi fait du théâtre à côté. Pareil, on n'a pas 5 heures devant nous, mais en tout cas, le dénominateur commun, c'est la création de projets. Je suis un peu comme une Mary Poppins dans mes missions. J'arrive quelque part, il y a des sujets. À partir de temps, il ne doit plus y avoir de sujet. Ça doit être réglé, le projet doit naître.
À partir de 20h40, il faut vraiment qu'on passe à la suite. Quoi.
Ben, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est juste une histoire de projet. Et puis après, évidemment, ça, c'est la vision globale. Mais ensuite, ça m'a aussi apporté beaucoup d'outils. Là, typiquement, pour donner un exemple très concret, comme tu le disais, j'ai travaillé à la Philharmonie de Paris. J'ai découvert des systèmes de billetterie. Mmh. Il s'avère que le système de billetterie de la Philharmonie et de l'Opéra Comique est le même. Et donc, du coup, quand on arrive, on peut le paramétrer nous-mêmes, en fait, le système de billetterie. Et donc, typiquement, ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur à tout le monde quand on fait des événements qui incluent de la billetterie. Et ça, pour le coup, c'était assez facile pour nous, quoi.
Tu définis le Fier Gala, en tout cas sur le site du Fier Gala, comme un Met Gala citoyen.
Ouais.
Alors déjà, on a un peu besoin que tu nous rappelles en quelques mots ce que c'est le Met Gala.
Il faudra changer ça d'ailleurs sur le site.
Ah ouais.
Alors le Met Gala, c'est un grand gala qui a lieu à New York chaque année au mois de fin avril, début mai, qui est assez historique. Hein, ça fait 30 ou 40 ans, voire plus longtemps. C'est fin 50, je crois, le Met Gala.
Ouais, c'est très vieux.
C'est très vieux et qui avait pour objectif de réunir des personnalités pour lever des fonds pour le musée. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais c'est aussi le Met Gala permet aussi de lever des fonds pour des bourses pour des étudiantes et des étudiants qui veulent intégrer des écoles de mode. Et donc, surtout depuis quelques années, ça devient un énorme, si ce n'est l'événement mondial de la mode, puisqu'il y a un thème et que les personnalités, les invités viennent habillés par les plus grands couturiers.
Avec des tenues ensuite très commentées sur les réseaux
sociaux. Très commentées. Ouais. Et en fait, petit marketeur que je suis, je me suis dit, mais en fait, si on veut diffuser un message, on parlait de la fête tout à l'heure, en fait, un tapis rouge exceptionnel, ça fait venir tout le monde et ça fait parler. En plus, là, on parle de la communauté LGBT, donc on parle des drag queens et des drag kings. Donc, si on leur dit, il y a un tapis rouge avec un thème, autant vous dire que c'est du pain béni. Voilà. Donc, je savais que j'avais déjà un petit socle de personnes qui, de toute façon, joueraient le jeu. Et voilà, après, le Met Gala devient ce qu'il devient. Je sais
donc
pas si.
Un événement très privé ou qui fonctionne très privé. Un peu par cooptation.
Financé par Jeff Bezos, le dernier.
Ah oui, en plus.
Voilà, voilà. Et voilà, nous. Enfin, quelque chose de très important dans cette période qu'on a décrite tout à l'heure, très difficile sur, à bien des égards. Nous, on a à cœur de rester un événement apolitique. On est un événement citoyen, un événement engagé, mais pas plus. Donc, effectivement, donner cette comparaison-là, je sais pas si elle est encore tout à fait justifiable.
C'est intéressant en tout cas parce qu'il me semble que Alice Coffin dans Le génie lesbien qui était paru chez Grasset il y a 6 ans, elle parlait de ça, du fait qu'on a besoin aussi de s'approprier un petit peu les codes des shows à l'américaine pour créer des objets un peu fédérateurs, c'est ça que tu dis aussi?
Bah, en fait, on a beau dire ce qu'on veut, en tout cas de ma génération, et je pense un petit peu avant et après moi, on est complètement nourri, enfin perfusé à la culture américaine. Totalement. Encore aujourd'hui, enfin je veux dire, tout le monde regarde Netflix, tout le monde regarde HBO. Enfin, on trouve encore beaucoup de choses géniales. Ils sont précurseurs encore sur beaucoup de sujets, notamment sur les gender studies, enfin qui est quand même qui vient vraiment des grandes universités américaines. Et nous, ça vient toujours un peu plus tard. Donc c'est pour ça que ça, moi, je suis un peu inquiet quand je vois que Trump est élu et qu'avec tout ce qui se passe, je me dis. Alors, on va prendre le taureau par les cornes et on va essayer de, voilà, à mon humble niveau, de faire en sorte que nos droits soient préservés.
Alors, Met Gala citoyen, mais qui coûte quand même un certain prix, de 55 à 190 euros. Ça peut être d'ailleurs un point de discorde aussi dans nos communautés, l'accès à ces événements. Et là, on est sur une fourchette de prix assez importante. Comment est-ce que tu l'as justifié? Est-ce que c'est aussi un peu le prix de l'indépendance? Puisque je crois que vous avez très peu de financement. Oui, voilà.
Très peu. En fait, en effet, c'est un sujet. On en a complètement conscience. Moi, j'aurais adoré faire des tarifs vraiment extrêmement réduit pour le plus grand nombre, mais pour ça il faut un très grand lieu. Moi c'est une première édition, j'avais aussi à cœur et j'aurais toujours à cœur via le Fier Gala en sous-texte, en filigrane, de soutenir la culture publique, donc c'était très important pour moi d'être dans un théâtre public.
Donc l'opéra comique
bien sûr. Donc déjà quand on commence avec ces facteurs là on sait qu'on va avoir un sujet sur le prix des places. En parallèle on est dans un opéra, l'opéra ça malheureusement, ça coûte cher. On est aussi avec, on propose quand même une offre artistique qui est d'une très très grande qualité, avec aussi une volonté, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, du plus grand mélange des genres, quelque chose d'assez unique, fédérateur et optimiste. Évidemment, en fait, on peut pas. Il y a 1200 places à l'Opéra Comique, on peut pas faire un tiers des places à 5 €. Néanmoins, les associations que nous soutenons ont eu accès à des tarifs préférentiels. On a d'autres associations amies comme les Fiertés Rurales qui ont accès à des tarifs préférentiels. L'Institut des Jeunes Aveugles de Paris a des tarifs préférentiels. Donc voilà, on s'efforce quand même si malheureusement on a conscience que le tarif n'est pas accessible. On a conscience que pour cette année, malheureusement, il y a des personnes qui pourront pas dire que le prix est une limite. Mais voilà, on espère. Voilà, l'idée c'est de taper fort pour la première année pour ensuite pouvoir justement dégager d'autres fonds et pour offrir plus de billets à moindre coût.
Précisons du coup, c'est peut-être le moment de le dire, que pour les auditeuristes qui nous écoutent, il peut y avoir aussi un moyen de payer un petit peu moins cher.
Absolument, puisque...
Jeu de regard très intense dans ce studio.
J'ai le clin d'œil. Oui, pour les auditrices et les auditeurs, on a mis en place un code promo. Voilà, c'est mon côté geek de billetterie. Un code promo qui s'appelle FIER26, en majuscule, qui donne accès à toutes les catégories de places avec une réduction de 40%.
Super. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et je remets, on a remis en tout cas le lien de la billetterie et le code promo sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. On a parlé de mode tout à l'heure avec ce thème la vie en rose. Pour toi, quand on n'y connaît rien à la mode, on peut se dire il y a un côté un petit peu artificiel, un petit côté très dépolitisé, très lisse. En quoi est-ce que pour toi il y a quelque chose aussi un peu d'émancipatoire dans la mode aussi? Et qui fait que tu le mobilises sur cet événement?
C'est très intéressant comme question. Déjà, je voulais dire que l'année dernière, on avait fait une soirée de lancement du projet Le Fier Gala et que le thème, c'était la meilleure version de soi-même. Je crois que la mode, en effet, peut créer des crispations d'un point de vue économique, écologique également. Je l'ai tout à fait à l'esprit, mais malgré tout, on continue de s'habiller et on s'émancipe en s'habillant. On s'identifie, on veut appartenir à un groupe ou contester un groupe par rapport à sa tenue vestimentaire. Et en fait, ça, je crois que tout le monde y est sujet. Je veux bien entendre toutes les critiques par rapport à la mode. Il n'y a aucun problème. Et malgré tout, en fait, on s'en sert tous d'une certaine manière.
Et alors, tu peux nous parler de ta tenue? Qu'est-ce que tu vas mettre? Qui l'a designée?
Ça, c'est un secret que j'ai regardé parce que je suis...
Une pause musicale arrive bientôt.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne serai pas habillée en rose du tout.
D'accord. Donc, une réinterprétation très libre.
C'est une interprétation très libre. J'espère identifiable. Mm-hmm. Je pense qu'elle le sera. C'est un ami couturier qui m'accompagne sur cette tenue. Évidemment avec un tarif d'amis, puisque voilà, des tenues sur mesure, c'est quand même aussi un sacré coup. Oui. Mais voilà, c'est aussi, dans cette première édition, il y a vraiment un effort collectif. Tout le monde à son niveau fait en sorte voilà, de, soit d'adoucir ses coûts, soit beaucoup de gens font des choses gracieusement. On a beaucoup de bénévoles aussi qui accordent un temps hallucinant. À ce projet et j'en profite aussi pour les remercier du coup.
On découvrira en tout cas le résultat de tout ça sur le tapis rouge du Fier Gala, ce sera le 12 juin à l'Opéra Comique. Alors nous au Lobby, on a plutôt l'habitude de visibiliser des événements dans des lieux plus petits, plus directement associés peut-être aussi aux luttes LGBT. Là on a évidemment en tête la Flèche d'Or qui fermera le mois prochain. Pourquoi est-ce que à tes yeux c'est important aussi, alors ça va rejoindre des choses qu'on a dit précédemment, d'investir ces espaces plus institutionnel, on parlait de théâtre public, donc comme le théâtre comique ici.
L'opéra comique.
Théâtre de l'opéra comique.
Flèche d'Or qu'on salue et qu'on adore,
évidemment.
Par ailleurs.
On n'en pose pas les deux. Mais
Tout à fait. Et alors, avant de répondre à ta question, je voulais aussi dire que bon, je suis un grand adepte depuis de très longues années de toutes les soirées, principalement LGBT, que Paris a à offrir. Je suis assez tout-terrain et. Et en fait, c'est vrai que bah, une soirée qui mette à l'honneur la communauté dans un lieu aussi institutionnalisé, ça n'existe pas. Et je crois que c'est important. C'est aussi une petite déformation étudiante, puisqu'on est sur Radio Campus. Donc, je vais vous parler de mon thème de mémoire il y a quelques années, qui était la musique classique et le jeune public. Et en fait, dans mes recherches, j'avais découvert que la musique était d'abord dans la rue, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, était par le peuple, pour le peuple. Et elle a été institutionnalisée, sacralisée en construisant de grands opéras, comme on a évidemment l'Opéra Garnier et l'Opéra Comique, parce que l'Opéra Comique, c'était l'ancienne Opéra Garnier, enfin l'ancienne Opéra de Paris, en fait. Et c'est là où toutes les grandes créations d'opéras françaises ont été créées, les œuvres de Bizet notamment. Et donc, je pense qu'inconsciemment, ça m'a aussi donné cette idée-là de dire, en fait, moi, j'ai envie de sacraliser ma communauté. J'ai envie de la mettre à ce niveau-là. Mmh. Alors, on peut dire, oui, bah, c'est pour les riches, on va me dire ça, on me le dit déjà. Mmh. Mais ce n'est pas la vision que j'en ai. La vision, c'est de dire, en fait, je l'estime à ce niveau-là, à ce niveau de beauté et de sacré.
Et finalement, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies dans la communauté LGBT. La scène ballroom, de base, c'est ça aussi.
Bien sûr.
C'est, là, on est sur un gala, mais c'est un bal, finalement, aussi.
Exactement, tout à fait. Et en parlant de scène ballroom, on aura aussi la créole qui sera parmi nous.
Super.
Et oui. Voilà, qui fera une performance
dansée.
Alors,
attends, redis-nous en quelques mots ce que c'est la créole. Donc, collectif...
Un collectif LGBT, ouais. Afro-caribéen, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Qui fait des soirées à tomber dans les pommes, littéralement, enfin, dans le sens propre, comme au sens figuré.
C'est vrai.
C'est positif, en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir.
C'est vraiment, si vous avez un petit coup de mou, franchement, allez à une soirée de la créole, vous avez de la bonne humeur pendant 2 ans en vous. Donc voilà, qui sont aussi parmi nous. Donc en effet, clin d'œil aussi au monde de la ballroom.
À découvrir donc le 12 juin au théâtre de l'Opéra Comique. Maximilien, tu restes avec nous. On va passer la parole à Sony. Maintenant, tu vas nous parler, je crois, d'une actualité qui t'a beaucoup marqué et qui est peut-être passée inaperçue. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler.
Eh oui, alors si vous avez moins de 30 ans et que vous n'avez jamais possédé une paire de jeans skinny noirs volés à votre mère, une ceinture à clous motif damier et un t-shirt animal trop mignon, mais l'animal il saigne de la tête, vous ne savez probablement pas qui est Caleb Chaumont.
C'est le thème, la vie en rose aussi, réinterprété librement.
C'est rose de la tête. Caleb Chaumont, aujourd'hui, c'est le chanteur de Beartooth, un groupe de metalcore très populaire. Mais en 2006, il faisait partie d'un groupe iconique de mon adolescence, Attack. Les inventeurs d'un genre de musique controversé, mais surtout incompris à l'époque, le crapcore. Alors, rassurez-vous, ma chronique, elle parle pas de crapcore. Tout ce que je peux vous dire sur ce style de musique bâtard, c'est qu'à l'époque, dans le milieu rock metal qui hurle, c'était extrêmement mal vu d'en écouter ou d'en jouer. Au risque de s'attirer un commentaire incisif, éloquent, poétique même, que je cite, « Attack, attack, c'est un truc de PD. » Et bah DJ, laisse-moi te dire que tu avais raison, parce que Caleb Chomo, en fait, depuis le début, bah c'était Caleb Homo.
Ah.
Eh oui. Après 20 ans de carrière et 14 ans de mariage, Caleb Chomo a fait son coming out, d'abord dans une chanson avec un refrain pas du tout subtil que je cite maintenant en français. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Je suis libre, suis libre, suis libre, suis... Enfin bref, etc. Et puis un post Instagram vraiment très clair, juste au cas où. Toujours traduit. Je suis un homme gay, fier. Mmh. Et vous pensez que les fans, ils l'ont accueilli comment ?
Bien, j'espère.
Bah, c'est mitigé, hein. Ça m'a rappelé mon expérience à l'époque où je portais ce fameux jean skinny noir volé à ma mère. La musique qui finit en corps, c'était toute ma vie dans les années 2000-2010. Ça me parlait parce que les mecs de cette scène-là, ils rentraient pas dans les codes de la masculinité virile classique. Je pensais y trouver un refuge, un safe place, comme disent les jeunes. Malheureusement, j'étais dans un cycle d'hétérosexualité et de cisgenrisme compulsif au point où, sans m'en rendre compte, je me suis éloignée de ces milieux pour pas être le PD qui écoute Attaque Attaque. J'ai fantasmé cette culture-là jusqu'à la fin de ma vingtaine, mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que cette scène soi-disant inclusive, bah, elle était aussi homophobe que les autres. Quand je vois que le coming out courageux d'une des stars de la scène attire des réactions genre « Sa pauvre femme, 14 ans de mensonge !» ou encore « Il fait ça pour relancer sa carrière. » Bref, on accueille un acte de libération comme un drame ou une opération marketing plutôt que simplement juste de le célébrer. Parce que pour moi, voir cette figure de mon adolescence se trouver, s'assumer avec toute cette fierté, même après 30 ans, un long mariage, bah en fait, ça a soigné quelque chose en moi. La représentation, c'est hyper important parce que c'est donner de l'espoir à des jeunes ou des moins jeunes en questionnement. Il nous faut toujours plus, surtout dans des scènes soupesément woke, qui sont bien plus conservatrices que ce qu'on pense. Aujourd'hui, grâce à Caleb Chomo, on gravit encore un échelon pour les musiques alternatives rock metal qui crient vraiment, qu'elles deviennent vraiment inclusives.
Merci beaucoup, Sonny, pour cette première chronique. Maximilien Marseillusson, le crapcore Attaque Attaque, ça te parle aussi ou Peut-être un petit peu moins. Alors, il y a une autre artiste qu'on aime beaucoup dans la programmation du Fier Gala qui n'est pas très crapcore non plus, c'est Loa Mercury.
Ah là là.
Dont on va écouter le dernier titre. On l'a déjà reçu dans cette émission, on l'a déjà beaucoup écouté, mais peut-être que tu veux nous en dire quelques mots quand même.
Frisson, enfin déjà c'est le premier mot que je peux dire quand je pense à Loa Mercury. On était à Cannes pour la journée mondiale contre l'homophobie, on a fait une soirée en partenariat avec Tétu, et Loa a fait un showcase iconique, enfin vraiment sublime. C'était en pleine nuit, la soirée avait déjà commencé, à 2h du matin elle s'est mise à son piano. Tout le monde s'est arrêté.
Eh oui.
Tout le monde s'est arrêté.
Qu'elle soit en piano voix ou en formation plus importante, tout le monde s'arrête. Les cœurs s'arrêtent de battre devant Loa Mercury, qui nous propose d'ailleurs un titre qui va très bien avec la météo du jour, Sans nuages, sur Radio Campus Paris.
Je ne sais plus si je vois des visages ou des visages s'embrasser. Je ne sais plus si je vois des nuages ou des nuages de fumée. Je ne sais plus si derrière tes messages sont cachés. J'aimerais y voir plus clair dans l'histoire plutôt que de supposer. La vie n'est rien de plus qu'un image par image saccadé. Que nous sommes censés franchir l'étage par étage sans tomber. La vie n'est rien de plus qu'un mirage où tes messages. J'aimerais y voir plus clair dans l'histoire, mais les pages sont mouillées. Et où
si la terre s'envisage, s'envisage. Je ne sais plus si le ciel sans nuage, sans nuage. Je ne sais plus si les hommes sans courage, sans courage. Sous ce ciel gris sans nuage.
Sans nuages, c'était le dernier titre de Loa Mercury qu'on retrouve donc le 12 juin au Fier Gala au Théâtre de l'Opéra Comique et le 10 juillet, ce sera au Théâtre du Trembleu à Avignon pour le festival Rainbow Day and Night, 20h37.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio Campus Paris.
Et on est toujours en compagnie de Maximilien Marseille-Husson, président et fondateur du Fier Gala. Donc ce sera le 12 juin à l'Opéra Comique, je viens de le dire. Et nous sommes rejoints par un deuxième invité. Bonsoir, Amar Lefebvre.
Salut Colin, bonsoir tout le monde.
Ça fait hyper plaisir de te retrouver ici, puisqu'on s'est déjà vu dans cette émission il y a presque pile un an, me disais-tu hors antenne.
Presque un an, oui.
C'est un rendez-vous maintenant.
Mais c'est un peu notre. Ça devient régulier. Ça.
Tu es en tout cas le président de l'association Joigny et fier de sa diversité, fier.e. Et c'est toi, donc, c'est cette association qui organise la Pride de Joigny. Ce sera la 4e édition le mois prochain, le 20 juin. Joigny, c'est donc dans le département de l'Yonne, en Bourgogne, donc pas très loin de Paris. Tu me disais même, en fait, à une heure et quart depuis, la, depuis Bercy.
Une heure et quart depuis Bercy. Donc voilà. Cette gare fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Joigny existait. C'est parce que cette gare existe. Enfin, elle est encore en action.
Et... 4e édition, donc, puisque la première, c'était en 2023. C'est un peu l'édition où vous allez ancrer, si ce n'est pas déjà fait, cette marche des fiertés comme un des temps forts de la ville, comme un des rendez-vous annuels.
C'est ce qui est en train de se passer. La volonté de pérenniser l'événement sur le territoire, c'est vraiment fait depuis notre 3e édition. Là, maintenant, l'idée est de poursuivre la pérennisation de l'événement sur le territoire, de vraiment inclure beaucoup plus d'associations, qu'elles soient régionales, locales et nationales, à se lier à nous. Ce qu'on a créé il y a 4 ans a commencé à germer et à faire des petits aussi dans d'autres petites villes aux alentours. Et du coup, on est en train d'avoir vraiment cet élan qui part de Paris, disons, comme étant la grande Pride nationale. Et en fait, surtout cette ligne de train qui va jusqu'à Dijon, on commence à germer en fait plein de petites Prides un peu partout et de créer ce tissu d'événements LGBTQIA+, qui mettent en des visibilités les minorités LGBTQIA+, dans les milieux ruraux.
La première Pride, c'était en 2023. Quel souvenir est-ce que tu en gardes ?
C'était... en fait, c'était parti d'un pari qu'on a fait avec Vincent Millet, qui est le coprésident de l'association, où en fait, j'ai décidé de faire ça là-bas parce qu'il y avait ce lieu totalement désert où on proposait de faire un concert.
Le non-lieu, donc l'ancien
tribunal. L'ancien tribunal de Joigny. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais on a un tribunal et ça tombe pendant le mois des fiertés. Enfin, ce serait con de absolument pas le faire. Et donc, vu qu'on est vraiment parti comme ça, c'était 2 semaines avant, on a tous les deux financé la Pride, donc sur nos frais propres. Et on pensait être à 50, vraiment.
Et finalement, en arrivant au port.
On pète les 300 personnes direct. Oui. Et.
Ce qui est assez gigantesque pour un événement donc organisé en si peu de temps et dans une ville de, rappelons-le, à peine 10 000 habitants.
À peine 10 000 habitants et surtout qui sont absolument pas nécessairement issus de la communauté. Mmh. Et là où on s'est pris une claque, parce qu'au-delà de l'idée de la célébration et de la fête, on a des parents qui viennent parce que leurs enfants sont en train de se poser des questions sur leur identité, donc sur toutes les questions de transidentité, et ils nous prennent un peu comme écho. Il y a aussi cette zone de ruralité et cette démographie qui montre qu'en fait, les gens dans certains milieux n'ont pas les moyens alors qu'on est à 1h15 de Paris et 1h30 de Dijon, n'ont pas les moyens de se déplacer, ne serait-ce que pour avoir accès à des psys qui peuvent suivre leurs enfants, n'ont pas assez accès aussi à cette communauté, parce qu'ils se sentent totalement éloignés des codes ou même
des barrières symboliques qui fait qu'on absolument va pas forcément à la Pride de Paris ou de Dijon.
Et Paris, pour certaines mentalités, reste encore cet Eldorado un peu de la grande ville. Enfin, c'est ce qui est assez impressionnant. Et donc, dès la deuxième édition, moi, j'ai tout de suite pris militant de base que je suis. J'ai commencé à prendre l'élan et j'ai fait venir Ayla Chanel, qui était Miss Trans en 2020, qui est venue donner une conférence sur la transidentité. Et des gens sont venus et des gens disent moi aussi je suis trans. Et en fait, ils ont passé toute leur vie dans ce silence et ils vivent dans des villages. Et en fait, ça permet de créer ce lien. Et c'est ça qui nous donne envie de pérenniser et qui fait qu'on pérennise.
Et cette première mobilisation lors de la première édition, c'est un symbole hyper fort, notamment quand on sait qu'en 2022, à l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête des suffrages dans Lyon. Est-ce que c'était aussi cet événement-là qui t'avait donné envie de monter cette Pride-là dans ce département ?
Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'on arrivait aux 10 ans du mariage pour tous et qu'on se retrouve dans un tribunal qui est désaffecté, dans lequel il y a une chapelle qui est désacralisée, face à une église, sur une petite place de village. Et donc là, en fait, la symbolique, elle est super forte. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas... Que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, peu importe. C'est pas tant ça la question. Enfin, je suis apolitique par cet événement parce que cet événement est plus grand qu'un visage politique. Il s'agit plus de créer du lien social, de rompre ces barrières, de dire qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et notre événement est intergénérationnel. Je reviens sur ce que disait Maximilien tout à l'heure. Moi, je suis sur le même principe. La fête est apolitique parce que ne serait-ce que de faire la fête est déjà en soi politique. La fête, c'est la manière avec laquelle les gens peuvent baisser la garde. C'est par ce biais-là que les gens se retrouvent, qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent. Et donc, en fait, c'était vraiment par ce biais-là. En disant, on a ce lieu, on a cette place, faisons-le.
Joigny, donc, on l'a dit, ville près de 10 000 habitants. Je ne sais pas si la comparaison est intéressante, mais qu'est-ce qui change entre une Pride dans une ville comme Paris ou dans une autre grande ville et une ville comme une commune comme Joigny? Je crois qu'en interview, tu parles aussi un peu de vouloir créer un événement comme un peu une fête de village.
Absolument. À chaque fois, je me fais la blague parce que, évidemment, c'est une organisation de... Moi, je le vois pas comme une Pride, je le vois plus comme un festival aussi, parce qu'évidemment, venant du milieu du spectacle, il faut que tout soit carré, et parce qu'on est des sacrément boulimiques de travail. C'est à chaque fois le mélange de Priscilla Folle du Désert, Tu Wong Fu, et l'organisation d'une bar mitzvah. Tu vois. C'est genre, il faut que tout soit en même temps, c'est la grosse salade composée de choses qu'il y a à faire, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est que on accompagne justement cette mixité et le fait aussi que ce soit intergénérationnel et qu'il n'y ait aucune distinction sociale, vraiment. On a des gangs de mamies qui viennent danser avec des drag queens. Évidemment, la gougère, qui est le truc de la Bourgogne, elles en font et elles en distribuent. Tu as des enfants qui font... donc j'ai instauré depuis quelques temps le Chamboultou Rainbow. Donc je me suis associé avec des ressourceries locales qui offrent des jeux et qui sont partenariés avec nous. Et en fait, si tu arrives à remettre le Chamboultou Rainbow dans le bon ordre, tu repars avec un jeu. Évidemment, il y a un drapeau qui te montre comment remettre le truc. Et par le biais de la fête...
Mais c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire que c'est aussi un moment de pédagogie.
Absolument.
Qui est important. C'est pas seulement un moment de se retrouver entre nous, c'est aussi de parler à ceux qui se posent des questions ou à ceux qui se posent pas de questions sur eux directement.
Bien sûr. Et bien sûr, c'est utiliser la fête comme un outil pédagogique. C'était l'année dernière, on avait fait toute une réflexion autour du Stonewall. Et quand je vivais à New York, j'étais résident du Stonewall. C'est aussi une manière de dire, on peut apporter cette histoire-là. Voilà ce qu'on nous maintenant notre devoir. étant de porter ce message.
Et toi, c'est ton grand combat d'ailleurs d'apporter aussi cette culture-là dans un milieu plus rural. C'est ce que tu fais avec cette Pride à Joigny. C'est ce que tu faisais aussi avec le fameux ballet Faune dont on a parlé avec toi donc il y a un an pile pour notre rendez-vous annuel. Un ballet qui nous emmenait d'ailleurs dans le New York des années 80. Donc c'est ça.
Et d'ailleurs, Faune et Mac, donc les deux spectacles ont été faits à Joigny et ont été dans la presse très bien accueillis comme étant les premiers ballets queer produit sur le territoire bourguignon. C'est quand même dingue que de se dire qu'à 1h15 en train de Paris, on peut vivre encore cette effervescence-là que des gens avant nous ont pu vivre dans... que ce soit à Paris ou ailleurs, et c'est réconfortant.
Et je trouve ça super intéressant parce que finalement, ton discours, il est super proche de celui de Maximilien, alors que du coup, on a ce côté très parisien, gala, paillettes, et à côté, ce que tu parlais d'un peu plus fête de village. Et finalement, bah, ça nous fait nous rendre compte aussi qu'on a, que la communauté, en fait, elle est un peu la même partout, peu importe qu'on soit à Paris ou dans les zones rurales. On peut se retrouver dans ces événements-là, en fait.
Mais tu sais... nous, on n'a pas de char à Paris, à Joigny, pardon, mais on a des pick-up. Alors, je rejoins ce que disait Maximilien sur le thème de la vie en rose. Moi, j'aurais dit, je veux le banc bourguignon, mais le plus glam qui existe. Je veux que ce soit le show, tu vois. Et en pick-up, alors, à la Pussy Wagon Tarantino, mais en restant évidemment soft et tout. Mais en fait, tout est possible parce que tout est à créer.
Exactement.
Ouais. Et c'est là où notre militantisme, en plus de notre créativité ou de notre effervescence, rejoint en fait ce pourquoi c'est important de faire les choses. Il ne s'agit pas de rester derrière son écran et dire « Ah bah tiens, il faudrait faire une pride pour quelques gays qui vivent, je sais pas, à la campagne. » Non, si tu es derrière ton écran, tu te fais la réflexion, c'est déjà trop tard. Tu le fais. C'est parce que si c'est important, tu le fais.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette Pride, elle vient rappeler aussi que les personnes queer dans le milieu rural, elles n'existent pas depuis 2020 ou 2023 pour la première édition.
Tout le monde n'est pas des paruraux, ouais. Non, voilà.
Et aussi, je me disais, c'est rigolo parce que c'est peut-être aussi l'occasion de célébrer toute une histoire d'un militantisme queer rural des années 70 et même plus récemment aux États-Unis, mais aussi en France d'ailleurs. Enfin, j'imagine que ça vient charrier cette histoire-là aussi.
Ça fait partie des réflexions parce que il y a eu donc. Appelons-le l'exode des gens qui sont sortis pour rejoindre les grandes villes parce qu'ils voulaient fuir à une certaine période des milieux familiaux qui étaient contre leur identité. Et en fait, c'est que tout le monde n'a pas cette opportunité. Donc, est-ce que tu veux passer ton existence à rester dans la frustration et en fait, par le biais de ces associations, par le biais de ces rassemblements et des événements qu'on crée sur ce territoire, on se rend compte qu'en fait, égoïstement, on en a laissé derrière. Donc maintenant, c'est notre rôle d'aller et de pouvoir maintenant leur dire qu'on est là.
Et c'est le sens donc de cette Pride à Joigny. Tu l'as dit, il y a aussi d'autres Prides qui ont commencé à s'aimer. Mais c'est assez récent d'ailleurs, ces 5 dernières années. Ouais. Et par contre, la carte de France se remplit à une vitesse assez folle. Et le cinéma s'en est emparé de cette question de la queerness en milieu rural. Il y a notamment ce documentaire qui est sorti cette année, Pédale Rurale, d'Antoine Vasquez, qui suit notamment la naissance d'un projet de Pride dans le Périgord, en Dordogne. Toi, j'imagine que ces films qui documentent aussi ce militantisme queer rural, tu les regardes. Quel regard, en fait, tu portes sur cette effervescence assez nouvelle de Pride rural, de films sur l'identité queer rurale ?
En fait...
Qu'est-ce que ça raconte ?
Ça raconte qu'il y a eu un gap de temps trop important entre notre époque et la ruralité. La ruralité, on va pas se mentir, enfin, moi je suis parisien, c'était toujours on va à la campagne, on s'en tape. Enfin, il y a toujours eu ce genre de piédestal parisien du truc. Alors qu'en fait, ça aurait dû être fait depuis bien plus tôt. Et. Quand j'ai vu ce film, justement, et il y a d'autres choses qui sont sorties. Et encore une fois, par le biais des rencontres, c'est là où tu vois, parce qu'en fait, tu es dans le dur. À Paris, on a moins le temps de pouvoir avoir ces échanges avec les gens qui sont directement. Là, tu vois, tu es face à des parents, à des grands-mères, à des gens qui posent leur identité et qui sont en train de se chercher aussi. Et ça te met directement dans une situation. Et c'est ça qui est hyper enrichissant et qui te donne envie de vraiment continuer sur ces projets.
On se retrouve donc dans Lyon à Joigny, c'est le 20 juin, c'est à 1h15 de Paris en transilien, en train depuis la gare de Bercy.
La gare de Bercy, qui fonctionne.
Et tu nous as parlé des pick-up les plus glam du monde, et ben nous on te propose tout simplement un sexy track. Liar, c'est le dernier tube de Sexy Truck à 20h54 dans le lobby. Et justement, elle aussi, elle est un peu sexy comme un camion, c'est Delila. Delila, c'est à toi.
C'est très gentil, c'est très gentil. Salut, salut les petites sorcières et les petits sorciers, et c'est entre les deux, ça va? Vous avez hâte de la cérémonie d'attribution des maisons? Gryffondor ou Serpent Fouette? Bon, ok, j'ai compris, vous n'êtes pas le public. Je suis sûr que vous détestez l'autrice des romans Harry Potter parce qu'elle déteste les femmes trans. Et bien figurez-vous que moi aussi. Celle qui ne doit pas être nommée, c'est une TERF, un acronyme qui ne signifie pas turbo enflure à race finie, mais en gros une féministe radicale qui exclut les femmes trans. Je mets féministe entre guillemets parce que voilà. Parce que oui, c'est choquant, ces hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, et puis quoi encore, des PD. Ça ne va pas la tête. Bref, cette frange radicale du féminisme, quand même à l'appeler les gens qui n'ont pas l'audace de les qualifier de fascistes de merde, considère que les femmes trans, c'est des messieurs qui fantasment à l'idée de se branler dans les toilettes des meufs, considère que les hommes trans, ce sont des femmes qu'on a sauvagement mutilées, et des TERFs, il n'y en a pas que vers la perfide Albion, on en a chez nous, des vrais TERFs AOP, nos régions du talent, Made in France, label rouge. Le plus connu, c'est Marguerite Stern, qui s'est fait connaître comme cofondatrice des collages contre les féminicides, et Dora Mouto, qui s'est fait connaître avec un bouquin pour dire qu'elle était tellement ballonnée qu'elle n'arrivait pas à faire caca. Elles sont tellement obsédées par nous, c'est une dinguerie, qu'elles ont sorti un livre horrible sur le sujet. Je ne vais pas leur donner plus de buzz, mais comme quoi cette idéologie transgenre mortifère serait partout. Elles vivent dans leur propre monde, et à mon avis, à Noël, elles hallucinent des pubs, vraiment. Type, waouh, ce n'est plus Action Man, c'est Action Non-Binaire. Yael a transitionné, ne pourchasse plus Dr. X, plus de supermoto et plus de cascades. Yael a désormais un abonnement TGV Max et un super agenda pour aller voir tous les différents membres de son pollicule. Action Non-Binaire, le A plus grande de tous les héroïnes. Les Lego, rien n'a changé. Ils s'imbriquent toujours, mais maintenant, il y a des bites dessinées dessus. Des bites de femmes. Et on a également le docteur Mabou qui revient dans une nouvelle version pour son anniversaire. À la place des trucs perdus dans son corps qu'il faut retirer sans toucher les bords, eh bien tu dois simplement lui enlever la bite et les couilles avec l'argent du contribuable. C'est docteur Travelo, c'est un jeu Hasbro. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est évidemment pour vous avertir de ne surtout pas leur mettre un énorme croche-patte si vous les croisez dans la rue, mais aussi pour vous informer, puisque Dora Mouto a été condamnée pour injure publique contre une élue trans, Mariko, sur le plateau de Quelle Époque, l'émission de Léa Salamé. Là, cette chronique, c'est vraiment un carquois, la manière dont il y a que des flèches dedans. Dora Mouto s'est ensuite fait clasher par Jérémy Ferrari. Je vous aurais bien passé un extrait, mais j'ai pas les droits, donc j'ai remplacé les voix. Excusez-moi. Voilà, c'est Dora Mouto et Jérémy Ferrari.
Ah oui, on reconnaît bien quand même, ouais. C'est bien.
Évidemment, cette brave dame a fait appel, mais si je peux moi-même faire un appel sans condamnation préalable, j'aimerais tout simplement rappeler que les personnes trans ne vont pas se laisser marcher sur les pieds et qu'elle va vite trouver la solution à ses problèmes gastriques. Parce que j'ai prévu de la faire chier pendant longtemps en étant une énorme lesbienne qui embrasse sa meuf de manière homosexuelle pendant qu'elle fait du jeûne intermittent avec son pote Thierry Casasnovas, le gourou du crudivorisme. Pour ne plus être constipée, je voulais te juger de ce qui est le plus stylé entre les deux.
Merci beaucoup, Delila. Il y avait tellement de choses dans cette chronique. On retrouve tes chroniques sur ton compte Instagram en vidéo et puis dès demain dans l'émission Le Monde Zygomatique, c'est tous les mercredis à 20h. Allez, 20h57, on se dépêche. Voilà, c'est le moment où on dit merci. Alors, Maximilien, Amar, à qui est-ce que vous voudriez, ou à qui ou à quoi vous voudriez exprimer de la gratitude? On commence avec Amar.
Moi, je te remercie, toi, Colin.
Oh, waouh!
Parce que...
C'est exactement le but de cette séquence. Ah, voilà. Je vous ai menti depuis le début.
Non, merci, merci de tenir toujours la radio du lobby pour nous.
Tu vas revenir dans un an, toi.
C'est possible. Et de donner des voix aux acteurs de la communauté.
Eh bien, avec plaisir.
Crise de la communauté. Et merci à l'équipe aussi.
Merci à Amar et toi, Maximilien.
C'est dur de passer après ça.
Ah ouais,
mais,
bah, c'est toi qui as fait le signe à Amar de commencer. Je te laisse te débrouiller.
Non, moi, je voudrais remercier mes anges qui me protègent et qui aussi permettent de faire de très belles rencontres comme celle de ce soir avec vous toutes et tous autour de la table.
Ouais, beaucoup de fleurs, ça fait très plaisir. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, Maximilien Marceus, le Fier Gala, c'est le 12 juin au théâtre de l'Opéra Comique. Le lien de la billetterie est à retrouver sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission avec un petit code promo pour nos auditeurs. Fier.
Fier 26.
26, tout en majuscule. Amar Lefebvre, on te souhaite une belle marche des fiertés jovinienne. C'est comme ça qu'on dit?
Exactement.
Voilà, je me suis un peu renseignée. C'est le 20 juin prochain. Et puis je rappelle le nom de ton association, Joanie, est fière de sa diversité.
Rejoignez-nous.
Voilà, et je crois qu'il y a besoin de bénévoles un petit peu. peu en plus.
Toujours besoin voilà. de bénévoles.
Je rappelle que c'était 1h15 depuis Bercy. Au micro ce soir, Maïel qui s'est aussi chargée de la prog musicale, Delila qui a aussi assuré la réalisation, et Sony, tu étais heureuse de The Baptême du Feu.
Oui, c'était trop bien.
Et ben c'était trop bien pour nous aussi. On se retrouve le mois prochain. Restez à l'écoute du 93.9 FM, puisque maintenant c'est Au Pays des Rêves. Elodie, je te vois en régie. Veux-tu nous en dire un peu plus sur ton programme? Ouais.
Salut tout le monde, ce soir on reçoit le Venus Club, c'est un collectif féministe qui œuvre dans la musique électronique. On va parler donc forcément d'inclusivité, de génial. Collectif et de comment on peut rendre cette scène-là encore plus inclusive et encore plus safe. Donc,
parfait, sans transition avec notre émission, c'est parfait. Allez, bonne émission, on se dépêche de vous laisser la place. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.